Amitié pour toi. Je ferai ce que tu me demandes, mais... Oh, vraiment, dit Jean en joignant les mains. Oh, monsieur, je ne dis rien, mais voyez ce que vous dit mon cœur.
Je vois, je te remercie, mon enfant, mais entendons-nous bien. Pour le placer, il faut que je sache tout. Parle-moi bien franchement, comme à un ami que tu ne veux pas tromper. Réponds seulement aux questions que je vais te faire. Le crois-tu honnête?
Non, monsieur.
Bon, Edin, le crois-tu actif, laborieux, travailleur?
Non, monsieur.
Et de deux, le crois-tu religieux?
Non, monsieur.
Et de trois, le crois-tu serviable, obligeant?
Non, monsieur.
Quatre, le crois-tu sincère, loyal?
Non, monsieur.
Le crois-tu bon camarade, d'un caractère agréable?
Non, monsieur.
Le crois-tu propre, rangé, intelligent?
Non, monsieur.
Monsieur Abel se mit à rire de si bon cœur. Que Jean lui-même ne put s'empêcher de rire avec lui. Quand l'accès de gaieté fut calmé, monsieur Abel reprit.
Mon pauvre enfant, que veux-tu que je fasse d'un pareil garnement? Ne t'effraie pas, je t'ai promis et je tiendrai parole. Mais comment vais-je faire? À qui et comment demander de prendre à son service un garçon voleur, menteur, irreligieux, paresseux, grognon, maussade, désobligeant, sale, désordonné, bête et je ne sais quoi encore?
Oh, sac à papier, quelle tâche tu me donnes! Mais quel service absurde tu me demandes! C'est bête comme tout, je ne sais pas comment m'y prendre.
Monsieur Abel se remit à rire de plus belle. Jean commença à s'inquiéter. Il sentait l'absurdité de sa demande. Il craignit d'avoir abusé de la bonté de Monsieur Abel.
« Monsieur, monsieur, dit-il d'un air suppliant, pardonnez-moi, ne m'en voulez pas. Je sens que je vous ai demandé une chose impossible, mais ce pauvre Jeannot me fait une telle pitié. Plus il est mauvais, et plus je le plains. »
« Et tu as raison, mon enfant. » Le méchant est réellement à plaindre. Ne crains pas de m'avoir mécontenté, je comprends très bien ta pensée. Et qui sait? Peut-être pourrais-je le ramener, lui faire du bien.
Oh, si vous y parvenez, monsieur, comme le bon Dieu vous bénira.
Ha ha! Et comme tu me regarderas! Mieux encore que tu ne me regardes maintenant. À propos, ton affaire à toi est arrangé. Tu entreras chez mes amis de Grignan, G-R-I-G-N-A-N. Il y a monsieur, madame, mademoiselle et le pauvre petit garçon bien malade dont je t'ai parlé. Ah, un vrai petit saint celui-là. Demande à Simon s'il désire que tu y entres. Il est ton frère aîné, le chef de ta famille, c'est lui qui doit décider de ton sort. Et à présent que nos affaires intimes sont terminées, je vais les faire les miennes. Les miennes et celles de Monsieur Jeannot, le voleur, le menteur.
Et après avoir serré la main de Jean, qui baisa celle de Monsieur Abel, celui-ci s'échappa, riant encore. Jean raconta à son frère ce que lui avait promis Monsieur Abel pour Jeannot et ce qu'il avait arrangé pour lui-même, Jean, sauf la vie de Simon. Dans ces conditions, dit Simon, et puisque tu as tout dit à Monsieur Abel, il n'y a pas d'inconvénient à ce qu'il place Jeannot, et ce sera un vrai tour de force. Quant à toi, Jean, je voudrais bien que tu puisses attendre que l'époque de mon mariage fût décidée et que Monsieur Métis ait le temps de nous trouver deux bons remplaçants. Comme tu voudras, mon bon Simon, dit Jean, je suis plus heureux près de toi que je ne le serai jamais avec personne. Ainsi, plus nous resterons ensemble, et plus je serai satisfait. Lorsqu'Abel entra dans son atelier, il y trouva son ami, que nous continuerons à appeler Caïn. Et l'air riant d'Abel attira l'attention de son ami. « Qu'as-tu donc vu de si gai aujourd'hui ?» demanda Caïn. « On dirait que tu retiens un éclat de rire.
» dit Abel. « Tu devines juste. J'ai ri au café, j'ai ri en route, je ris encore et je rirai toutes les fois que j'y penserai. Figure-toi que cédant aux sollicitations de mon petit ami Jean, je me suis engagé, oui, engagé, à placer comme domestique un garçon voleur, menteur, sale, paresseux, maussade, insolent, etc., etc., etc. Ben, toutes les qualités réunies, est-ce que je vois, dit Caïn. Et ce domestique, voleur, menteur, etc., qui est-il et comment s'appelle-t-il?
Jeannot, le Jeannot que je n'aime pas.
Et à qui destines-tu ce trésor?
Ma foi, je n'en sais rien. Il faudra que tu m'aides à tenir ma parole.
Très volontiers.
De même que toi, j'aime ce qui est bizarre. Et je ne vois rien de plus original que de s'intéresser à un Jeannot.
Bon, dit Abel, je vais me mettre à la besogne. Et tout en me regardant peindre, tu tâcheras de trouver une idée et une bonne. Dépêche-toi pour que je la porte demain à mon petit Jean.
Je crois, dit Caïn, que tu n'attendras pas longtemps. J'ai en vue un coquin qui fera notre affaire. Le lendemain, Abel arriva au café avec empressement.
Jean, dit-il, vite mon déjeuner, que je te raconte ce que j'ai fait.
Jean s'empressa d'apporter le déjeuner et resta debout en face de Monsieur Abel, attendant avec impatience qu'il parlât. Il n'attendit pas longtemps.
Eh bien, mon ami, j'ai une place pour Jeannot.
Déjà, monsieur, dit Jean, et ses yeux brillèrent comme des escarboucles. Déjà, mais que vous êtes bon. Abel le regarda et sourit.
Bien, bien, dit Abel. Je comprends, c'est une très bonne place. Des gens fort riches, qui payent bien, qui ne sont pas méchants. Jeannot sera bien nourri, bien habillé, bien payé. Tu vois qu'il sera bien.
Mais monsieur, sera-t-il bien traité?
Ma foi, je n'en sais rien, cela dépendra de lui.
Monsieur, est-ce une maison dans laquelle vous me feriez entrer?
Oh, diantre, non! Pas toi! Jamais toi! Je te renverrai plutôt dans ton village.
Mais alors, monsieur, Jeannot y serait très mal.
Jeannot y sera très bien. Jeannot est un mauvais drôle, voleur, menteur, etc. Et une maison honnête et tranquille ne lui irait pas. Il n'y resterait pas deux jours. Toi, mon enfant, je te place dans une excellente maison, avec de bons maîtres, bien charitables, qui savent que tous les hommes sont frères et qui les traitent comme des frères. Tu seras sous les ordres d'un valet de chambre qui est un vrai modèle. Et à propos de ta position, que t'a dit Simon?
Il désire, monsieur, que je donne à monsieur Métis le temps de me remplacer.
Très bien, très bien. Rien de plus juste. Je veux parler à monsieur Métis. Le trouverai-je chez lui en sortant d'ici?
Oh oui, monsieur, il ne sort jamais avant midi. Monsieur Abel acheva son déjeuner et montra chez le maître du café. Il en descendit au bout d'un quart d'heure.
Jean, je viendrai te prendre demain pour te mener chez tes futurs maîtres. Habille-toi proprement.
Oui, monsieur, je serai prêt. Quand Abel fut parti, Jean, toujours si gai, s'assit tristement sur une des chaises qui entouraient les tables. Simon entra et, le voyant sérieux et immobile, s'approcha de lui. « Es-tu souffrant, Jean? Comme tu es triste !»« Monsieur Abel doit me mener demain chez mes futurs maîtres, Simon, et je ne serai plus avec toi.
Mais tu me verras souvent, mon ami, surtout quand je serai marié. Mon nouveau commerce me laissera plus de liberté. »
Jean lui serra la main, tâcha de reprendre sa gaieté et finit par y réussir. Monsieur Abel avait été chez l'épicier en sortant du café. Il trouva Jeannot seul dans la boutique, suçant du sucre candi qu'il avait volé.
« Viens ici, drôle !» dit Monsieur Abel. « D'après les sollicitations de Jean, je t'ai trouvé une place, une bonne place, bien meilleure que tu ne le mérites. Tu iras demain, à midi, rue de Penthièvre, numéro 28. Tu monteras au premier, tu demanderas Monsieur Boissec, B-O-I-2-S-C. Le maître d'hôtel de Monsieur le Comte de Furières, F-U-R-I-E, accent grave, R-E-S. Et tu lui diras que tu viens de la part de Monsieur Cahin. On t'expliquera le reste là-bas.
Merci bien, monsieur. Je suis bien reconnaissant à monsieur.
C'est bon, c'est bon. Au reste, ce que je n'en fais, ça n'est pas pour toi, c'est pour Jean. Va me chercher Pontois, ton patron.
Oui, monsieur. Je remercie bien, monsieur. Je ne suis pas comme monsieur croit. Simon et Jean m'ont sans doute fait du tort dans l'esprit de monsieur.
Tais-toi ! Pas un mot de plus ou je t'assomme !
Jeannot s'empressa de sortir.
Misérable ! Ingrat ! Dit Abel, se parlant à lui-même. Au moment où Jean lui rend un service qu'aucun autre ne lui aurait rendu, il ose l'accuser de calomnie. Si ce n'était ma promesse à Jean, j'irais défaire ce qu'a fait Cahin. Le gueux, le gredin.
Pontois entra. Il reconnut Monsieur Abel, le chanteur.
C'est vous, monsieur le chanteur ? Demanda Pontois. Que me voulez-vous ?
Je veux vous parler, monsieur l'épicier, au sujet du garçon que vous appelez Jeannot. Vous n'y tenez pas, il ne tient pas à vous. Je vous en débarrasse. Envoyez-le demain là où je lui ai dit d'aller. Il faut qu'il y aille, entendez-vous ? Il le faut. Il vous devra une indemnité pour les 8 jours que vous aurez le droit de lui demander. La voici.
Il jeta sur le comptoir une pièce de 20 francs et sortit, laissant Pontois stupéfait.
Qui est donc ce monsieur ? Se demandait Pontois. On dirait d'un prince. Quel air ! Quelle hauteur ! Et comme il a jeté cette pièce d'or, comme on ferait d'un sou ! Il me débarrasse de Jeannot, qui est un mauvais drôle, et il me paye encore. Bonne affaire pour moi ! Mais qui est donc ce monsieur Abel ?
Il ramassa la pièce d'or, la mit dans son gousset, appela un garçon et remonta dans son entresol. Chapitre 20. Jean chez le petit Roger. Monsieur Abel vint déjeuner au café. Comme d'habitude, Jean lui sourit, mais ce sourire était triste. Il le regarda, mais ses yeux étaient humides.
Courage, mon enfant, dit Monsieur Abel. Je vois bien ce qui t'a fait du chagrin, c'est de quitter ton frère. Mais tu restes près de lui, tu le verras souvent. Et puis, il aurait bien fallu le quitter un peu plus tard, quand lui-même, étant marié, aura pris le commerce de son beau-père.
C'est vrai, monsieur, dit Jean. Je me suis dit tout cela bien des fois, mais j'aime Simon. Il est mon frère, et il a été si bon pour moi. Je le verrai, mais ce ne sera pas pareil. Et vous, monsieur, je vous verrai sans doute aussi, mais pas tous les jours. Pas régulièrement comme je vous voyais ici. Je pouvais tout vous dire ici, vous confier toutes mes joies, toutes mes peines, vous aimer à mon aise.
Pauvre enfant, tu m'aimes donc bien ?
Si je vous aime, monsieur, mais comme un père, comme un bienfaiteur.
Jean ne dit rien de plus. Monsieur Abel acheva son déjeuner en silence. Il se leva, chercha Simon des yeux.
« Amène-moi Simon, mon enfant, j'ai quelque chose à lui dire. »
Jean l'amena tout de suite.
« Simon,
dit Monsieur Abel,
j'ai vu hier Monsieur Amédée. J'ai obtenu de lui que ton mariage aurait lieu vers le carême et qu'en attendant, tu entrerais chez lui pour te mettre au courant de son commerce. Il te loge et te reçoit chez lui dès demain. Monsieur Métis, ton patron, consent à ce brusque départ. Je te reverrai, Jean, dans une heure. Au revoir, Simon. Et toi, Jean, viens avec moi et prends courage. Tu seras heureux chez Madame de Grignan.
Je n'en doute pas, monsieur, dit Jean. Ce n'est pas ce qui m'inquiète. C'est ce que je vous disais au café, monsieur.
Oui, oui, mon ami, je le sais bien. Mais vois donc, si ce n'est pas la même chose pour tous, partout et toujours. On se sépare sans cesse de ce qu'on aime.
Tout en marchant et causant, ils arrivèrent devant un bel hôtel de l'avenue Gabriel.
Voilà ta maison, mon ami. Montons, je te présenterai à tes maîtres.
Monsieur Abel monta, suivi de Jean, entra dans un premier salon, puis dans un second où se tenait la maîtresse de la maison. Elle était à son bureau, elle écrivait.
Vous voilà, mon cher Abel, dit-elle en se levant. Ce jeune homme est sans doute votre ami Jean. Vous voyez, Jean, que nous vous connaissons. Vous avez l'air effrayé, mon pauvre garçon. Monsieur Abel a dû vous dire pourtant que nous chercherions à vous rendre heureux.
Monsieur Abel m'a dit, madame, que vous étiez bien bonne, que vous étiez tous bien bons et que vous aviez un pauvre enfant bien malade et qui était un petit saint.
Madame de Grignan tendit la main à Abel.
Merci, mon ami, d'avoir parlé ainsi de mon pauvre Roger. Il a bien envie de vous connaître, Jean. Monsieur Abel lui a parlé de vous.
Moi aussi, madame, je serais bien heureux de le voir.
Eh bien, suivez-moi. Venez aussi, Abel. Roger est toujours si heureux quand il vous voit.
Madame de Grignan ouvrit la porte du fond et les fit entrer dans une chambre où était Roger, couché dans son lit. Son pauvre petit visage était pâle et amaigri. Ses mains et ses bras n'avaient que la peau et les os. Il avait de la peine à tourner la tête sur son oreiller, tant il était affaibli par la souffrance. Lorsqu'il les vit entrer, un sourire doux et aimable anima un instant ce visage souffrant.
« Mon cher monsieur Abel, dit-il d'une voix faible, que vous êtes bon de venir me voir. »«
Comment te trouves-tu, mon enfant ? Répondit monsieur Abel.
« Je souffre beaucoup depuis hier, mais ne me plaignez pas, je souffre pour le bon Dieu, je lui offre tout et il m'aide. »
Jean, étonné, attendri, avait les yeux pleins de larmes. Roger l'aperçut, le regarda attentivement.
« Qui est ce jeune homme ? » demanda Roger. « Il a l'air bon. »
« C'est mon ami Jean dont je t'ai parlé, mon petit Roger. Il est en effet très bon. »«
Est-ce qu'il aime le bon Dieu ?»«
Beaucoup, mon ami. Sans cela, il ne serait pas bon. »«
C'est vrai. Jean, je voudrais vous voir de plus près. »
Jean s'approcha et se mit à genoux près du lit du pauvre petit malade.
« Je suis content de vous voir, Jean. » Je sens que je vous aimerai, que vous êtes un enfant du bon Dieu comme moi, dit Roger.
Jean lui baisa la main et ne put pas retenir une larme. Il restait à genoux près du lit et regardait Roger.
Est-ce pour moi que vous êtes triste, Jean ? Reprit Roger. Je ne suis pas malheureux. Je sais que je vais mourir, mais ce n'est pas un malheur de mourir. Je souffre tant. Et depuis si longtemps, je serai près du bon Dieu, près de la bonne Sainte Vierge. Papa, maman et ma sœur me rejoindront après. Et toi aussi, Jean, je t'aime déjà un peu. Oh, mon Dieu, je souffre. Tant mieux, mon Dieu, c'est pour vous, je souffre. Donnez-moi du courage, mon Dieu, aidez-moi. Oh, mon Dieu!
Sa tête retomba sur l'oreiller. Des gémissements contenus s'échappaient de sa poitrine. Une sueur froide inondait son visage. Monsieur et Madame de Grignan avaient pris la place de Jean et d'Abel. Ils essuyaient la sueur qui ruisselait sur son visage et sur son cou et lui faisait respirer du vinaigre. Quand la crise fut calmée, Roger parut inquiet.
Maman, demanda-t-il, je crains de m'être plaint trop vivement. Croyez-vous que j'ai offensé le bon Dieu?
Non, mon enfant, mon cher enfant, tu as tout accepté avec la résignation d'un bon petit chrétien. Sois bien tranquille, repose-toi.
Le petit Roger baisa un crucifix qu'il avait à son cou.
Je suis bien fatigué, maman. Dites à Jean de revenir demain. Il me soignera un peu, cela vous reposera. Adieu, Jean, prie le bon Dieu pour moi. Mon bon monsieur Abel, restez près de moi pour laisser maman se reposer. Vous resterez avec papa et vous causerez devant moi. J'aime tant à vous entendre causer.
Je resterai près de toi, mon enfant, dit monsieur Abel. Chère madame, voulez-vous présenter mon ami Jean à Barcus?
B-A-R-C-U-2-S.
Votre maître d'hôtel, je le remets entre vos mains. Va, mon pauvre Jean, Barcus te mettra au courant de la besogne que tu auras à faire. À demain au café pour la dernière fois.
Avant de sortir, Jean baisa la petite main décharnée du pauvre enfant qu'il avait si profondément impressionné et attendri. Roger lui sourit, mais il n'eut la force ni de parler, ni de bouger. Madame de Grignan l'emmena. Quand elle fut dans le salon, elle fondit en larmes. Jean la regardait pleurer avec tristesse, mais sans oser parler.
« Mon pauvre Jean, tu entres dans une maison de douleur. »«
Oh, madame, c'est une maison de bénédiction pour moi. » Madame de Grignan avait les mains sur les yeux. Elle pleurait. Puis elle se leva et dit
« Venez, Jean, je vais vous mener à notre bon Barcus. Un bien excellent être, celui-là. »
Elle appela Barcus et lui présenta Jean.
« Mettez ce bon garçon un peu au courant de la vie qu'il mènera chez nous, Barcus. Il est bon et pieux, car il a pleuré près du lit de notre pauvre petit enfant et il a prié près de lui. »
Barcus serra la main de Jean et l'emmena.
« Monsieur Abel m'a beaucoup et souvent parlé de vous, Jean, dit Barcus. Que savez-vous faire ? » ?»«
Je ne sais rien du tout, monsieur. Je n'ai jamais été que dans un café, dit Jean.
« Eh, c'est déjà quelque chose, répondit Barcus. Et en tout cas, vous êtes modeste, ce qui est une bonne disposition pour tout apprendre et tout bien faire.
Je vous remercie, monsieur, de l'encouragement que vous me donnez. Je vous obéirai en tout, monsieur, et je m'efforcerai de bien faire ce que vous m'aurez commandé.
Bien, mon ami, très bien, dit Barcus. Et dites-moi, allez-vous régulièrement à la messe ?
Au café, monsieur, je ne pouvais y aller que le dimanche de grand matin. Et puis Simon et moi, nous allions à Vêpres, chacun à notre tour.
Et faites-vous vos prières, matin et soir?
Oh, monsieur, comment les aurais-je manquées? Simon et moi, nous les faisons toujours ensemble, côte à côte. Et puis Simon me bénissait au nom de maman et je l'embrassais. C'était toujours le commencement et la fin de nos journées.
Qui est Simon ? Demanda Barcus.
C'est mon frère aîné, monsieur, un bien bon frère, et monsieur Abel a été si bon pour lui. C'est lui qui a arrangé son mariage, qui lui a fait une fortune.
Ah, vous aimez monsieur Abel ?
Si je l'aime, monsieur. Les yeux de Jean étincelèrent. Je l'aime de toutes les forces de mon cœur, je me ferais tuer pour lui. Et le jour où je pourrai verser mon sang pour lui rendre service sera le plus heureux de ma vie. Si je l'aime, mais si vous saviez toutes les bontés qu'il a eues pour moi et pour Simon, si vous saviez tout ce qu'il a fait pour nous, mais vous ne me demanderiez pas si je l'aime. Et croiriez-vous, monsieur, que ce bon monsieur Abel a de l'amitié pour moi? Oui, monsieur, moi, pauvre garçon, qui ne suis bon à rien, qui ne puis et ne pourrait jamais rien pour lui, il m'aime, monsieur. Il est content que je l'aime. Bon
Excellent, monsieur Abel. Si je pouvais du moins lui faire comprendre ce que j'ai pour lui dans le cœur. Mais je ne peux pas. Je ne trouve pas les paroles qu'il faut. Et puis, je n'ose pas.
Barcus était de plus en plus content de ce que lui disait Jean. Lorsque Jean fut parti, Barcus alla raconter à madame de Grignan toutes les paroles que lui avait dites le protégé de monsieur Abel. Elle en fut touchée et les redit à son tour à Abel.
« En vous le donnant, chère madame, dit monsieur Abel, je savais le trésor que je vous livrais. Si je ne l'avais pas fait entrer chez vous, personne d'autre que moi ne l'aurait eu à son service. Ce sont de ces âmes d'élite, de haute qualité, qu'on garde soigneusement quand Dieu les met sur votre chemin. Barcus et lui sont dignes de s'entendre. »
Ils s'entendent déjà comme de vieux amis. Barcus est enchanté. Il vous attend au passage pour vous remercier.
En effet, lorsque M. Abel partit à la fin de la journée pour rentrer chez lui, Barcus le guettait au passage et lui dit
« Monsieur, je ne vous remercierai jamais assez du cadeau que vous avez fait à notre maison. Ce Jean me paraît être un véritable trésor. Et comme il vous aime, si vous aviez vu ses yeux quand il me parlait de vous et de ce qu'il vous devait, quels yeux et quelle vivacité dans sa reconnaissance. Pauvre garçon, il souffre de ne pas pouvoir vous le dire comme il le voudrait.
Je suis bien content, mon bon Barcus, répondit monsieur Abel, de vous l'avoir donné et de l'avoir remis à votre garde. Avec vous, serviteur modèle, il achèvera de devenir un saint et un serviteur comme on n'en voit guère, comme on n'en voit pas. »
Abel partit.
« Demain, se dit-il, mon pauvre Jean ne sera pas Jean qui rit. Il quitte son frère, ses habitudes. Et moi aussi, je suis un peu triste de perdre cette bonne heure de déjeuner. C'est singulier comme j'aime ce brave garçon. Je m'y suis attaché petit à petit. Je regrette presque de ne pas l'avoir gardé pour moi. Mais non. Mon excellent ami me l'a demandé pour Roger. Un regret même serait égoïste et coupable. Pauvre petit Roger, quel saint enfant. À 10 ans, avoir le courage, la patience et la ferveur d'un martyr, vraie bénédiction du bon Dieu, et les parents le méritent. »
Le matin, lorsqu'Abel arriva au café, il trouva Simon et Jean qui l'attendaient. Ils s'empressèrent de le servir pour la dernière fois. Simon avait l'air heureux du sort que lui avait fait son excellent bienfaiteur. Le pauvre Jean avait la mine d'un condamné à mort. Qu'il regardât M. Abel ou qu'il considérât Simon, il était également affligé. Abel avait l'air grave, presque triste. Le déjeuner ne fut pas long.
« Adieu, mes bons amis, » dit M. Abel en se levant. « Je vous reverrai. Toi, Simon, je serai un de tes témoins pour ton mariage. Je te donne d'avance mon présent de noces. Il t'aidera à faire la corbeille, les cadeaux pour aimer ta future femme. »
Il lui remit un portefeuille dans la main.
« Et toi, mon enfant, ajouta-t-il en se tournant vers Jean et en lui prenant les deux mains, je ne te dis pas adieu, je te reverrai aujourd'hui même. Au revoir donc, mon ami, au revoir. »
Fin de la deuxième face de la cinquième cassette, page 161, Jean qui grogne et Jean qui rit, par la comtesse de Ségur.